Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la dernière lecture faite dans le livre de Michel Coast, Parle-moi d'amour aux éditions ouvrières, le jeune homme a visité le sage, comme il était dit, et même sur le moment, il a apprécié que le sage glisse quelques mots de sa propre expérience de la vie. Mais en même temps, il a soulevé bien des questions que le jeune se pose maintenant. J'extrais de ce dernier épisode quelques phrases. « C'est dur d'aimer », a dit timidement le jeune, et le sage a complété « beaucoup plus dur que tu ne penses ». Et plus loin, nous avons lu toujours dans la bouche du sage « Nul ne se donne la vie à lui-même, il la reçoit, et vivre, c'est d'abord accepter sa vie ». Une phrase difficile pour le jeune. Mais le jeune rajoutera aussitôt « Je comprenais tout ce qu'il disait, mais aujourd'hui je découvrais que lui aussi avait cherché longuement, avait-il dit, et de le savoir me réconforta et m'encouragea. » Mais le sage, à la toute fin de cette visite, a eu des phrases difficiles pour le jeune. « L'humanité souffre et meurt, je te le répète. » Torturé, crucifié par la faute des hommes, par notre faute. Et le jeune homme complète cette pensée par « Je savais, mais je ne voulais pas savoir ». Comment, après cela, le jeune va-t-il reprendre contact avec le sage ou gardera-t-il ses problèmes? Nous allons reprendre notre lecture de ce troisième épisode pour en savoir un peu plus. J'avais lu, relu, deux fois, trois fois, plus encore le message de mon ami. Le sage avait raison. Je le comprenais, je le sentais. Cependant, une fois encore, je mesurais la lourdeur de mon être. J'aurais voulu marcher, courir, voler, et je restais à terre, immobile, de plus en plus honteux. Il y avait des hommes à sauver, un monde à construire. Je devais m'engager, mais je ne pouvais me résoudre à n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan. Une pierre dans le mur, un grain de blé dans la moisson. Je voulais être plus et faire plus, mais voulant faire plus, je continuais de ne rien faire. Et je pensais, les jours passent et je ne puis les rattraper. Ils sont dépensés à mon profit et non pour le service des autres. J'avais renoncé à chasser de mes yeux les images de la misère, à fermer mes oreilles aux cris des hommes souffrants. Verrouiller mes portes était devenu inutile. Images et cris étaient entrés chez moi et n'en sortiraient plus. Je livrais un combat d'arrière-garde que je savais perdu. En fait, j'avais une excuse. Je ne savais quoi faire. Si quelqu'un était venu me proposer une action concrète, œuvre petite mais qui se voit même vaguement humiliée de me résoudre à si minimes choses, même pensant « à quoi ça servira ?» J'aurais accepté d'être embauchée, tant j'étais mal à l'aise dans ma situation de démobilisée. À nouveau, j'étais chez le sage. Ne lui avais-je pas promis de le revoir bientôt? Il me regardait, silencieux. Dans son regard, aucune sévérité, aucune condamnation, mais au contraire, une infinie bienveillance qui me mettait à l'aise. Devant lui, je ne me sentais pas jugée, mais invitée. Il attendait que je parle. Je n'aimais pas engager la conversation. Je cherchais toujours mes premiers mots. Ils étaient hésitants, malhabiles. Et quand, enfin, il paraissait timide et gauche dans l'espace oppressant du silence, j'avais honte de leur banalité et j'aurais aimé les faire rentrer à la maison. Je balbutiais. « Je vous remercie de votre message. » « J'aurais préféré, mon petit, t'entendre et te parler de vive voix, » dit-il doucement, presque tendrement, pour me montrer, j'en étais sûre, qu'il n'était pas fâché. Je cherchais une excuse. je ne pouvais pas dire au sage que j'avais peur de lui. Non, pas tellement de sa personne, qui pourtant m'impressionnait, tout en m'attirant, mais surtout de cette lumière qu'il allumait en moi. Elle me forçait à voir au-delà de mes brumes, tandis qu'une force nouvelle inquiétante jaillissait au creux de mon être, me poussant impitoyablement hors de mon chez-moi tranquille. Sans grande conviction, j'affirmais : « Je ne voulais pas vous déranger, vous êtes tellement occupé. » Le sage sourit imperceptiblement et son sourire me gêna. Je compris qu'il n'était pas dupe. Je me sentis rougir et pris mon visage entre mes mains pour tenter de cacher mon émotion. Mon ami m'offrit le cadeau d'un petit morceau de temps, le temps qu'il fallait pour me reprendre, puis je l'entendis me dire fermement « Peut-être m'arrivera-t-il certains jours de ne pouvoir parler longuement avec toi. Alors je te le dirai, mais jamais, tu m'entends mon petit, jamais tu ne me dérangeras. Et le temps que je te donnerai sera un temps pour toi, un peu de ma vie pour toi. » Je le crus, et le croyant, je sentis que je venais de franchir une étape importante. Alors, apaisé et heureux, je décidai de lui poser mes questions. « Ami, lui dis-je d'abord, comment serais-je celui que je dois être ?»« En grandissant, mon petit, ainsi l'arbre poussant, s'il était conscient, ne découvrirait que peu à peu celui qu'il devient et doit devenir, platane, chêne ou peuplier. Et si le platane voulait être chêne, et si le chêne voulait être peuplier, il n'y parviendrait pas et serait mal heureux, car mal dans leur écorce. Sois toi-même. Enrichis-toi des autres, mais ne les copie pas. C'est de toi que les autres ont besoin. Ne joue pas ta vie, même si ton personnage est réussi, c'est de ta vie et non de ta comédie que le monde a besoin. Et comment saurais-je ce que je dois faire? En grandissant, là où tu es, au moment où tu vis, avec les personnages qui t'entourent, comme l'arbre. Le sage se recueillit un instant, puis il poursuivit comme il en avait l'habitude, en déclamant lentement une sorte de poème. J'aimais la musique de ces mots qui, un à un, s'échappaient de ses lèvres, comme colombes emportées par la brise légère ou secouées brutalement au vent de sa passion. J'écoutais. Arbre, arbre solide et beau, plonge tes racines en terre. Sans racines et sans terre, tu ne pourrais point vivre. Plonge tes branches en ciel. Sans branches et sans ciel, tu ne pourrais vivre. Et que tes racines de terre et tes racines de ciel mangent et boivent l'humus et l'eau, l'air et le soleil. Arbre, mon ami, grandis pour toi, grandis pour moi, grandis pour tous les hommes. Car nous avons besoin de toi pour respirer et nous chauffer, nous abriter et nous meubler, pour nous aimer et pour dormir, pour vivre et pour mourir. Arbre, tu n'es pas seul au monde, mais multitude dans la forêt profonde. Avec tes frères, écoute les bruits de la ville, légers de rires et lourds de pleurs. De tes branches tendues, comme bras qui s'offrent, disponibles, accueille les hommes qui accourent. Ils te féconderont et tu leur donneras vie. Mais sois toi-même et refuse les rapaces qui, sans te respecter, cherchent à t'exploiter pour leur plaisir et leur profit. Si ton cœur grand ouvert est fait pour un toit couvrir une maison, refuse le feu qui de ta chair veut tirer la chaleur. Si tu dois sous tes ombrages abriter le jeu des enfants en la forêt profonde, refuse d'être bureau pour l'étudiant et chaise pour le vieillard. Si tu dois un jour être autel pour le prêtre, refuse d'être table pour la famille et lit pour les amants. Arbre, mon frère, plonge tes racines en terre et tes racines en ciel. Sois l'arbre que tu dois être, mais arbre pour les autres. Ami, dis-je quand il se tut, j'ai peur de ne pas tout comprendre en votre poème. Pouvez-vous me l'expliquer? Non, mon petit. Vis, grandis, et puis interroge ton cœur, c'est lui qui t'enseignera. » Et comme s'il se parlait à lui-même, il ajouta presque tout bas, « Peut-être ai-je trop semé. Qui sème très serré empêche la graine de pousser. » Puis, à nouveau, s'adressant à moi, il dit encore, « Reviens, nous avons tant et tant de mots à déposer en terre qu'il nous faut beaucoup de sillons préparés. Mais n'oublie pas de travailler ta terre. Rien ne sert de semer si tu n'es labouré. » J'étais sur le pas de la porte, il me rappela. « Souviens-toi, dit-il, tes racines de terre, tes racines de ciel. » Il se tut à nouveau, sembla hésiter, puis ajouta plus bas. « Mais connais-tu ton ciel ?» Il avait refermé la porte. J'étais seule avec sa dernière question entre mes mains. Chapitre 11. C'était vrai. Peu à peu, je comprenais les paroles du sage. En mon cœur, elles germaient comme des graines en terre, et sans que je puisse déceler leur lente gestation, chaque jour maintenant, j'en découvrais les fruits. Je vivais, et à certains moments, c'était nouveau, j'étais heureux de vivre. Je réalisais de plus en plus que mes longues et mornes réflexions, comme mes rêves fous, mangeaient mon temps de vie sans nourrir ma vie. Souvent, je constatais que j'avais été là, tout en étant absent, mes yeux clos cherchant dans la nuit de mon cœur, et celui que j'étais est la trace d'une route. En vain. Quand, enfin, j'ouvrais à nouveau mes paupières, ce n'était pas pour accueillir la lumière crue du réel, mais pour fixer dans le vague, je ne sais quel mystérieux écran, où défilaient inlassablement en noir ou en couleur, les images de mes rêveries. Oui, il fallait vivre, et pour vivre, me libérer et rejoindre ma terre. Je la découvrais et découvrais mes racines. N'étais-je pas fou de les avoir ignorées ou de les refuser? Comment pouvais-je vivre, puisque sans elles, je ne pouvais pas vivre? J'étais chêne ou platane? Je serai chêne ou platane. J'étais planté là, c'est là que je pousserai et porterai mon fruit. Ma terre nourricière, c'était le réel de ma vie. Ma famille, mon milieu, mon travail, mon quartier, mes loisirs. C'était aussi les personnes qui m'entouraient, celles que j'aimais et celles que je n'aimais pas. C'était aussi le moment où je vivais, les événements petits et grands qui m'enveloppaient, m'atteignaient, me sollicitaient. Je résolus d'être présent. Mais comme il était difficile d'être là, racines en terre et branches en ciel. En ciel? C'est vrai, le sage avait encore raison. Quel était donc mon ciel? Je trouverai. Je trouverai en grandissant. Je comprenais aussi que je n'étais pas seule, mais multitude, comme arbre en forêt. Jusqu'à présent, ma tête le savait. Mes yeux, mes oreilles et mes mains l'ignoraient. Celui qui se regarde ne peut regarder l'autre, et celui qui s'écoute ne peut écouter l'autre. Cette fois, je commençais à les rencontrer, ces autres, à toucher leur vie, à me laisser toucher. Cependant, m'approchant des autres, de plus en plus, j'entendais leurs appels. Et je pensais encore qu'il m'avait également fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était tout près de moi, autour de moi, que s'offraient chaque jour les occasions de ces engagements. Ceci m'apparaissait toujours plus nécessaire, mais également toujours plus difficile et surtout toujours aussi inefficace. Mais je n'admettais plus de penser et de rêver aux champs immenses à moissonner, en oubliant dans ma main le grain à semer. Je ne voulais plus discuter âprement sur la construction du grand ensemble en gardant ma brique inutile déposée à mes pieds. Tout cela, le sage me l'avait fait comprendre en me le disant. Aujourd'hui, c'est moi qui me le disais et me le redisais. Il restait à le faire. J'essayais encore de sortir de moi pour aller vers les autres. Cependant, j'acceptais cette fois d'admettre que ma vie ne changea pas au rythme de mes découvertes et de mes compréhensions, et j'entrevoyais déjà combien cet humiliant décalage entre compréhension et réalisation pouvait être invitation au combat ou source de découragement. Je choisis le combat, car je savais que c'était là un véritable combat d'homme. Plutôt que de chercher et d'aller lutter ailleurs, fidèle à mon réel, je commencerai là. Plutôt que me vouloir chef de chantier dans une grande entreprise, j'accepterai d'abord d'être manœuvre chez l'artisan. Ainsi, je savais maintenant ce que je devais faire aujourd'hui, et j'en étais certain. Si j'étais fidèle, je découvrirais en grandissant ce que je devrais faire demain. Je décidai pourtant d'attendre plusieurs semaines avant de revoir le sage. Je tenais à me présenter devant lui, mes terres labourées. Chapitre 12. Tout n'était pas clair. Il restait dans mon cœur et dans ma vie de vastes espaces d'ombre. Je les craignais. Si j'allais à nouveau me perdre dans la nuit, mais je redoutais toujours la lumière. Victorieuse de cette nuit, elle m'obligerait à poursuivre ma route. Je marchais, j'étais heureux de marcher, mais craignais déjà de ne plus pouvoir m'asseoir. Certaines paroles du sage, surtout, m'intriguaient. Elle m'intriguait d'autant plus que, je le pressentais, elle cachait quelque chose d'essentiel comme l'arbre cache sa sève. Cette sève qui est la vie et ne se révèle que lorsqu'elle pleure de la branche cassée. L'amour était la raison d'être et la sève, l'homme. C'était pour le sage une évidence, puisqu'il avait murmuré presque tout bas « L'homme est fait par amour et pour l'amour ». J'étais très loin de partager cette assurance. D'abord, fait par amour, l'avais-je été moi-même ? Jeune, ma mère, très peu mon père, obéissant scrupuleusement à tout ce qu'on entendait dire, m'avait expliqué clairement les mystères de la vie. Elle l'avait fait si clairement et si naturellement, cela aussi, on disait qu'il le fallait, que je ne trouvais rien de mystérieux à ces mystères-là. Mais j'avais compris et retenu que des parents pouvaient avoir un enfant sans l'avoir désiré. Et je savais pourquoi, un oubli, une erreur, une faiblesse. Alors, lorsque j'étais seule, recroquevillée dans le coin d'une pièce, paralysée par l'ennui ou blottie au creux de mon lit, attendant un bonsoir qui n'en finissait pas de venir, je me posais cette lancinante question. Avais-je été un enfant désiré ? Ou n'étais-je qu'un enfant accueilli et reconnu après coup ? Et si j'étais vraiment le fruit d'amour de mes parents, pourquoi ceux-ci n'avaient-ils pas eu assez de cet amour qui donne vie pour m'offrir le frère que je désirais tellement, égoïstement, pour jouer avec moi ? C'était évident, mais aussi pour aimer. Plus tard, adolescent, j'appris comme tout le monde que l'homme avait enfin conquis le droit de détruire la vie dont il ne voulait pas. Cette fois, il aurait seulement les enfants qu'il désirait, puisqu'il pouvait supprimer les erreurs. J'avais du mal à admettre que ce fût là une grande victoire. Mon père l'a célébrée, ma mère ne disait rien. Moi, à nouveau, je pensais, s'ils avaient eu le droit de mon temps et sans frais, serais-je là? Mais je ne disais rien, je n'osais pas. Les grandes personnes ne se doutent pas de ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de leurs enfants. Aujourd'hui, le problème était pour moi beaucoup plus vaste. Y réfléchir rallumait en moi le volcan de mes révoltes. Car comment pouvait-on dire que des dizaines de millions d'enfants des pays sous-développés avaient été faits par amour, eux qui étaient condamnés à mourir avant l'âge? Monstrueux avortement collectif, qu'à mon avis, on ne dénonçait pas assez de véhémence pour cela. Et comment pouvait-on dire que les hommes étaient faits pour l'amour, alors que ceux-ci passaient leur temps à vivre pour eux-mêmes, s'exploitant et s'entretuant les uns les autres? Non, je ne pouvais pas admettre ces paroles du sage. Et pourtant, celui-ci me l'avait fait comprendre, et je le constatais. L'amour était essentiel à l'homme. L'amour, c'était au plus profond de mon être, cette extraordinaire énergie qui le faisait marcher, courir, lutter, vivre. C'était ce souffle mystérieux qui, l'arrachant à la lourdeur de ses désirs, le rendait capable de sacrifier sa vie. C'était enfin, je l'expérimentais douloureusement, cette mystérieuse faim et cette soif en lui, tenace, mais jamais pleinement apaisée et toujours renaissante. Alors, je n'y comprenais rien. N'étions-nous pas les comédiens forcés d'une absurde et immense tragédie, faits pour aimer mais incapables d'aimer, condamnés à toujours désirer et tenter de vouloir ce que jamais nous ne pourrions atteindre? Et l'humanité, pauvre humanité, victime de cette horrible farce, jusque à quand souffrirait-elle? À moins que quelque fou ou quelque courageux n'achevât plus tôt ses souffrances, l'homme n'en avait-il pas le pouvoir? En la désagrégeant en même temps que sa terre nourricière, elle-même épuisée, c'était monstrueux! Aimer, n'était-ce pas en fait qu'un beau rêve d'enfant pour enfants bien pensants? Tout cela, j'étais venu le dire au sage, attendant qu'il m'éclaire et apaise la tempête qui montait en moi au fur et à mesure que je parlais. J'avais peur que ma barque si fragile, enfin lancée sur les eaux, aujourd'hui déchaînée, ne regrette le port et cherche à le rejoindre. Le sage ne calma pas ma tempête. Au contraire, il me rejoignit dans la bourrasque et parut l'épouser. Tandis que je parlais d'amour, exposant mes révoltes et mes doutes, brusquement il m'interrompit. Son visage d'habitude si pâle s'empourpra, ses yeux s'allumèrent d'une lumière que je ne leur connaissais pas. Je crois que c'était la colère en lui qui prenait feu. Sa voix devint forte et dure. Il s'exclama. « Tu as raison, mon petit. Trop d'hommes, aujourd'hui, bafouent l'amour. Beaucoup même n'y croient plus. Ils mettent le monde en danger, plus sûrement qu'en engrangeant les bombes de la terreur, car il leur restait l'amour. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de l'amour ?» Il y avait le soupçon des philosophes, implacables dévastateurs, taraudant les cerveaux orgueilleux et détruisant lentement les foies les plus tenaces. Mais il restait l'amour au cœur des hommes à la tête éclatée. Il y avait la faim dans le monde, l'analphabétisme, le sous-développement. Mais il restait l'amour invaincu, armant sans cesse le bras de l'homme pour les combats de vie. Il y avait le manque de liberté, les inégalités, les injustices. Mais il restait l'amour enfoui au creux des corps enchaînés, amour inaccessible aux doigts sanglants des tyrans et des bourreaux. Il y avait les luttes, les guerres et les morts. Mais il restait l'amour, amour en sang, amour en pleurs, mais amour survivant. Il y avait le monde fou, mais il restait l'amour inviolé, mystérieux, souffle accueilli, souffle échangé, aux lèvres qui s'unissent, et les nids des corps enlacés, tissés des nids d'enfants. mais voici que l'amour est atteint au cœur même de son cœur. L'amour libéré éclate aux quatre coins de l'homme et son corps fait l'amour quand son cœur est ailleurs et son cœur quête l'amour quand il n'étreint qu'un corps. L'amour est enseigné comme une gymnastique. L'amour est arraché du lit clos des amants et sur la place affichée entre le dernier spectacle et les nourritures pour chiens. L'amour est projeté sur grand écran, gros plan sur le sexe, émotion permanente pour obsédés en manque. L'amour est au bazar en cassette, en image, lumière rouge et poupée de vent pour foyers éteints et chair morte. L'amour est mis en vente sur le trottoir, au menu de la carte. Chérie, t'as plus d'argent, t'as plus d'amour. L'amour est défiguré, étranglé, fossilisé, chosifié. Et cette chose, en miettes, traîne partout dans la boue des chemins. Il restait l'amour, mais l'amour aujourd'hui est un feu qui s'éteint, tandis que les hommes nus, lèvres frémissantes, yeux enfiévrés, meurent de froid en serrant entre leurs doigts avides les morceaux de la chose qu'en mourant, ils s'entêtent encore à dénommer amour. Pauvres hommes que nous sommes, dit encore le sage, nous ne savons pas qu'en tuant l'amour, nous sommes en train de tuer la vie. Il ne me regardait plus, heureusement. Je ne pouvais plus supporter son regard. Il avait baissé la tête et je ne voyais que ses beaux cheveux blancs dans lesquels traînaient quelques reflets de lumière, lueurs attardées du jour agonisant. Quand à nouveau à mes yeux, son visage se montra, je fus saisie. Il avait retrouvé ce calme et cette paix qui m'étaient maintenant familiers. Il murmura simplement. C'est triste, infiniment triste, mais je le sais, je le crois de toutes mes forces. C'est l'amour qui vaincra. Et moi, une fois de plus, bouleversée, encombrée de ma pauvre tête où d'épaisses nappes de brouillard recouvraient la lumière naissante, malade de ce cœur partagé qui tant désirait croire, je me disais « Oui, il y a un mystère ». Il ne se peut pas qu'il n'y en ait pas. Il y a un mystère d'amour qui est un mystère de vie. Et ce mystère, le sage le connaît. Mais pourquoi, ne me le révèle-t-il pas? Chapitre 13. Je décidai de partir à la découverte du mystère. En fait, que connaissais-je de l'amour? L'amour était certes tout ce que m'en avait dit le sage. Je le concevais mieux depuis que peu à peu mon ami m'entr'ouvrait les yeux. Mais pour moi, l'amour demeurait surtout le rêve des époux, rêve réalisé ou cruellement déçu, la tendresse des mères et la force des pères pour des enfants chéris, l'amitié recherchée, mais si souvent insaisissable et décevante, et plus encore, depuis longtemps déjà, et chaque jour davantage, ce désir de la fille qui passait sur ma route déserte, celle que j'agressais ou caressais du regard en quêtant un regard, celle que j'effleurais de mes lèvres subitement timides, celle que je touchais, palpais de mes doigts brusquement libérés, celle parfois que je tentais de capturer en mes bras déchaînés. Mais l'amour, pour moi, était plus encore, au-delà des époux, des parents, des amis, des filles, au-delà de la joie des cœurs et du frisson des corps, c'était, je ne savais pas. C'était mon île inconnue, mon port dans la nuit, ma faim, ma soif, mes recherches, mes luttes, mes blessures, mes souffrances, mes remords. C'était mon désir, mon tourment qui venait, je ne savais d'où, pour aller, je ne savais où. Que connaissais-je de l'amour? Et le sage me dit « L'amour dépasse l'amour, mon petit. L'amour est vol d'oiseau dans le ciel infini, mais le vol de l'oiseau est plus que petit être de chair virevoltant dans les airs, plus que ses ailes amoureuses courtisées par le vent et plus que l'indicible joie quand meurent les battements d'ailes et que le corps en paix plane dans la lumière. L'amour est chant du violon qui chante le chant du monde. Mais le chant du violon est plus que le bois et l'archer, inertes et solitaires, plus que les notes en habit de soirée qui dansent sur les partitions et plus que les doigts de l'artiste qui courent sur les cordes. L'amour est lumière sur les routes humaines, mais la lumière qui se donne est plus que caresse matinale ouvrant les yeux de nuit, plus que rayon de feu qui réchauffe les corps et plus que mille pinceaux de soie colorant les visages. L'amour est rivière d'argent qui coule vers la mer, mais la rivière vivante qui traîne ou se hâte est plus que son lit accueillant et craint qui ne retient, plus que l'eau rugissante sous le regard du couchant et plus que l'homme sur la rive jetant ses appâts pour empêcher les fruits. L'amour est voilier qui sur l'eau fend les vagues, mais la course du voilier est plus que l'étrave séduite pénétrant la mer et qui s'offre ou se débat, plus que les voiles frémissantes sous les caresses de la brise ou les gifles du vent, et plus que les mains du marin accrochées à la barre, poursuivant inlassablement son amante sauvage. L'amour dépasse l'amour. L'amour est souffle infini qui vient d'ailleurs et vole vers l'ailleurs. L'amour est esprit d'homme qui connaît et reconnaît le souffle. Il est liberté d'homme qui tout entier se tourne vers lui. L'amour est consentement de l'homme au souffle qui invite. Il est cœur de l'homme qui s'ouvre pour l'accueillir et le donne. Il est corps de l'homme qui se recueille, disponible pour qu'habiter par lui, traversé par lui, il s'envole vers les autres, vers l'autre, et qu'enfin, ce qui était éloigné se rejoigne et s'ajuste, ce qui était séparé ne devienne plus qu'un, et que de l'un jaillisse une nouvelle vie. « Oh, ami, dis-je, révélez-moi quel est ce souffle puissant et mystérieux, et j'ouvrirai mon cœur et j'offrirai mon corps au souffle que j'attends pour que vive ma joie et que vive la vie. » Le sage se recueillit, il ferma les yeux, il était silencieux. Ce silence ne me gênait plus. Au contraire, je savais maintenant qu'il était l'aube d'un soleil levant. Ce jour-là, cependant, il dura plus longtemps. J'observais mon ami et je m'étonnais que même les yeux clos, son visage fût autant expressif. Il était grave, immobile, presque figé. Tout à coup, ses lèvres se mirent à remuer imperceptiblement. Parlait-il tout bas? Alors, un à un, ses traits se détendirent. Un frémissement de vie passait sur son visage, comme une brise légère fait vivre un champ de blé. C'était plus profond encore, car maintenant, son visage changeait. Il devenait clair, translucide, comme si une mystérieuse lumière s'était allumée à l'intérieur. Enfin, il ouvrit les yeux, me regarda longuement et dit « Prie, mon petit, prie !» Puis il se leva et m'accompagna jusqu'à la porte. Je sortis en silence, sans même avoir songé à lui dire au revoir. Dans cette dernière partie du chapitre 13 de notre lecture, le sage, dans un grand poème qui commence par « L'amour dépasse l'amour, mon petit », il brosse un tableau de l'amour que le jeune a bien entendu et souhaite connaître. Le jeune va dire « Oh ami, révèle-moi quel est ce souffle puissant et mystérieux et j'ouvrirai mon cœur, j'offrirai mon corps, etc. etc. » Il est bouleversé de cette découverte. Le prochain épisode nous en dira plus à ce sujet. En attendant, n'hésitez pas à écouter l'émission « Je lis pour vous » en direct sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+, ou encore les podcasts sur le site. À bientôt, chers auditeurs.